Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde. Bienvenue beaucoup à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jard. Il fait beau, n'est-ce pas? Il fait aussi beau que les élections d'il y a deux jours, je pense. Et puis, je voudrais vous signaler en partant un article dans le journal Le Daily. Alors, vous pouvez trouver ça, Le Daily. Là. Le titre, c'est « Rouge-bleu ». Alors, vous vous souvenez de M. Zappa à LCN avec le rouge et le bleu. Mais où est le vert? La place de l'environnement dans les élections américaines. Alors, c'est zéro, hein, n'est-ce pas, à peu près. Alors, je vous suggère de lire ce chapitre, cet article-là, dans la revue Le Daily, et le titre, c'est « Rouge, virgule, bleu, trois points, mais où est le vert, point d'interrogation. » Je ne peux pas vous lire tout ce dont je vous parle, parce que j'en aurai pour deux jours. Et maintenant, dans le chapitre autochtone de cette émission, il s'est passé un peu d'imprévu, c'est-à-dire que j'ai trouvé hier un article dans la presse qu'il me fait plaisir de vous relayer. Ça s'appelle « Un roman à succès écrit par Michel Jean, Le pouvoir guérisseur de Kokoum, K-U-K-U-M ». Vous savez que Michel Jean était un animateur à LCN qui s'est retiré récemment, mais qui a écrit quelques romans. Alors voici ce que l'article dit en gros. Là. « Le roman à succès écrit par Michel Jean prend le chemin du théâtre du Nouveau Monde ». Derrière cette adaptation fort attendue de Kokoum se trouve une équipe composée d'Autochtones et de non-Autochtones. Tous sont soudés derrière l'histoire de l'héroïne, Almanda, qui embrasse la culture Innu pour suivre son amour. Je pense que c'est Mme la jeune Labrèche qui fait Almanda. Alors, dans ce roman, Michel Jean raconte la vie de son aïeule, Almanda, femme forte et résiliente qui, adolescente, a quitté le petit village agricole de Sainte-Prime pour vivre avec l'homme de sa vie, un Innu du nom de Thomas Siméon, arrivé par le lac Saint-Jean comme poussé par le vent. Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre qui va être faite. On dit qu'on a répété sur une plage, appris à poser des collets, admiré d'immenses étoiles, et là-bas, on est devenu comme une petite famille. Pour l'artiste Anishinaabe, par sa mère, il était essentiel qu'interprètes et concepteurs puissent baigner dans cette nature immense et s'initier aux savoirs ancestraux des Innus. Je voulais infuser des savoirs autochtones au processus de création. Si la culture autochtone et la nature dans laquelle elle s'inscrit prend une place importante dans la pièce de théâtre tirée du roman Kokoum, reste une grande histoire d'amour aux yeux d'Émilie Monet. C'est un amour qui se déploie en quatre actes sur quatre saisons. Il y a d'abord l'amour épidermique d'Almanda pour Thomas Etienne et pour l'amour de Nushimit, l'amour de sa famille et finalement l'amour qu'elle éprouve pour le peuple Innu. Alors, l'Innu sur les planches, si Jean-Luc Canapé a déjà fait du cinéma, il vit avec Kokoum sa première expérience sur les planches et j'adore ça. Mais au départ, ce qui m'a convaincu de participer, c'est Malek Siméon, le personnage du père de Thomas. Ma grand-mère est une Siméon. Je suis de la ligne de Malek. Ça m'a donné envie d'honorer ma famille. C'est l'histoire de la maison. Et en plus, comment dire non à un rôle joué entièrement en Innu? On a choisi de faire éclater le roman pour intégrer des histoires du territoire, des récits anciens traduits par Joséphine Bacon. Tout ça vient enrichir la proposition scénique en ajoutant un autre angle au roman. Alors, c'est ça, c'est dans la presse récente, là, ça s'appelle « Le pouvoir guérisseur de Kokoum », le livre de Michel Jean qui est mis en théâtre. Alors, félicitations à M. Jean. Et puis, on revient en musique. Oui, bonjour. Claude Saint-Jard ici, à nous le futur. Deux chansons de suite, c'est un petit peu trop pour cette émission, en tout cas. Fait que, là, tu sais, je vous ai dit quelquefois que Seymour Melman, un ingénieur industriel, a critiqué beaucoup les États-Unis parce qu'ils ont trop d'armement, et puis de budget militaire, au détriment de la société civile. M. Mellman a écrit plusieurs livres dont je vous ai parlé. Et donc, il suggérait la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, comme vous savez déjà si vous avez écouté l'émission. Et puis, dans quelques secondes, je vais ajouter quelques détails sur lui. Mais il y a aussi un autre qui revendiquait la conversion de l'industrie militaire pour une meilleure agriculture dans le monde, finalement. Et pas seulement agriculture, mais je vous dis un petit peu de ça, là. Donc, Lester Brown, il dit que notre monde se trouve confronté à l'émergence d'une géopolitique de la pénurie. Il disait ça dans le livre « Le plan B » en 2020. Et ce qu'il faudrait faire, à son avis, ce qui prendrait 163 milliards par année pendant une vingtaine d'années, c'est 4-5 mesures. C'est éradiquer la pauvreté et stabiliser la population, remettre la planète en état, nourrir correctement 8 milliards d'individus, stabiliser le climat. Et cinquièmement, je l'ai perdu, j'ai perdu sa feuille, mais c'était... En tout cas, c'est construire une autre réalité, finalement. C'est... concevoir des cités pérennes, l'écologie des cités, repenser le transport urbain, l'agriculture en ville, le défi des bitonvilles et des villes conçues pour leur habitat. Alors, Lester Brown a écrit également le livre « Basculement », qui est plus récent que le plan B, pour finalement rétablir l'agriculture et réaliser les 5 objectifs dont je viens de vous parler. Et puis, il disait, comme je vous disais, en 2012, que l'agriculture, les sols américains étaient détruits. Mais voilà que en 2024, on nous dit dans le livre dont je vous ai déjà parlé aussi, notre agriculture à la dérive, que ça se passe et qu'il faut prendre en main notre agriculture si on veut la sauver. Fait que, donc, c'est pour Lester Brown qu'il demande de mettre les budgets militaires pour sauver la nature. Et puis bon, ben, je le sais par cœur, ça ne me sert à rien de courir après mes livres dans le studio. Là. Seymour Mellman dit la même chose dans « Demilitarizing and Conversion of Military Industry » et aussi « Profits Without Production ». Ça, c'est une manière de dire que, finalement, vous savez que l'industrie militaire états-unienne, c'est des entreprises. Hein? C'est le Pentagone, c'est le complexe militaro-industriel. Fait que c'est 51% de l'économie qui est américaine qui est militaire. On ne réalise pas ça. Fait qu'il dit que des choses surprenantes, comme nous autres, en économie à l'université, on apprend à minimiser les coûts. Alors, ce qui se passe dans le militarisme états-unien, c'est maximiser les coûts. C'est très surprenant. Imaginez un marteau qui peut coûter 129 $, tu sais. Et puis, j'ai vu ça, cet exemple-là. Là. Fait que le livre « Profits Without Production » de Seymour Mellman, c'est ça que ça montre, c'est que il y a des industries, des entreprises qui font des profits, mais qui produisent rien, c'est-à-dire qui produisent du militaire, qui ne sert à rien et qui n'est là que pour l'overkill, c'est-à-dire un surplus de capacité de tuer, qui est inutile parce qu'on peut tuer seulement une fois. En 1980, on pouvait tuer l'humanité 300 fois. Il y a eu des progrès. Je pense qu'aujourd'hui, on peut l'éliminer 15 fois. Alors, ces gens-là ne réalisent pas qu'une fois, c'est suffisant. Alors, on pourrait réduire de beaucoup, beaucoup, beaucoup les dépenses militaires mondiales. Puis on pourrait s'arrêter à la capacité de tuer l'humanité une fois, si vous y tenez, là. Puis après ça, on pourrait pratiquer la fraternité, l'entraide, la collaboration, la coopération. Puis essayer d'arriver à ce que Buck Mitzvah souhaitait. C'est un succès de l'humanité, écologiquement et pacifiquement. Ce qui veut dire que tout le monde vivrait très bien, avec tous leurs besoins satisfaits, sans avoir à nuire à l'écologie ou à s'entretuer pour y arriver. C'est une possibilité, c'est une capacité qu'on a depuis 1980. Et puis, il y a l'économiste Kate Raworth, dont je vous ai déjà parlé aussi, qui a modernisé ça. Elle a appelé ça la zone juste et sûre pour l'humanité, qui n'est possible que si on respecte les limites de la planète et qu'on satisfait les besoins de l'humanité. C'est 12 besoins à satisfaire. Logement, nourriture, alimentation, puis vêtements et équité entre les sexes et la paix générale, etc. 12 besoins. Et puis, parmi les 9 limites de la planète, bien souvent, on entend dire que 6 sont déjà passées. Et la revue Climatoscope de l'université Explorer justement ces limites-là. Vous l'avez dans Internet, mais vous l'avez aussi en formule papier. Alors, également, je vous ai dit des mots de Alain Deneau. Lui, il est différent des deux auteurs dont je viens de vous parler, là, c'est Mo Mellman et Lester Brown. C'est qu'au lieu de dire que c'est le budget militaire mondial qui peut aider à nous sauver, il dit que c'est 12 % du PIB mondial, qui est à peu près de 12 000 milliards de dollars, qui est de l'évasion fiscale, qui, si elle n'était pas faite, pourrait être dans les coffres des gouvernements, et ça aiderait à résoudre les problèmes de pauvreté et d'écologie détruite. En parlant d'écologie détruite, ce matin à la télévision, on parlait des feux en Californie. Alors, ces feux-là, est-ce que ça pourrait servir de poêle pour cuire le repas de Trump? Ce repas-là sera servi par Biden. Et Biden actuellement fait une conférence à la télé qui fait que personne ne m'écoute à peu près, peut-être. Excepté quelques convaincus, parce que Biden est là. Et Biden, sa conférence, et j'ai entendu dire, en parenthèse, c'est une blague, c'est la lecture du menu qui invitera Trump à la Maison-Blanche. D'abord, il arrivera en tracteur au diesel, qui fait beaucoup de boucan, là, mais ça lui plaît, parce qu'ils vont drill, ils vont pouvoir creuser pour avoir du pétrole pour les tracteurs en question. Puis une fois arrivé... Il y a un avion qui arrive parce qu'il a fait cuire le repas en Californie dans les champs et forêts en feu. Le repas s'est constitué de aliments provenant de chats et de chiens américains, des intestins de foie gras et des cuisses de labrador cuites au four avec des confits de dents ramollies avec l'acide sulfurique. Fait que... Petite blague. Donc, échec aux paradis fiscaux, c'est une lettre de nouvelle, un bulletin de nouvelles qui arrive, là, une infolettre finalement, c'est comme ça qu'on dit ça en bon français. Une infolettre, ça s'appelle échec aux paradis fiscaux, et c'est peut-être pour essayer de contrer ce que Alain Deneau nous dit dans ses livres, l'évasion fiscale. Et Alain Deneau, bien, comme j'ai aussi dit, il parle dans son livre « Faire que ». Du fait qu'on devrait s'orienter vers les biorégions pour la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique, entre autres. Finalement, c'est pour survivre parce que les changements climatiques nous forcent à le faire. Les changements qui sont désormais, comment dit-il ça, autonomes et exponentiels. Et aussi le fait que les gouvernements fuient leurs responsabilités, ainsi que les entreprises. Donc, nous sommes tout nus face et mal pris face au changement climatique. Donc, il faut s'enligner vers les biorégions. Et j'en ai parlé à Roméo Bouchard, cet écrivain prolifique sur la réforme de la démocratie, qui a écrit, par exemple, le livre « Décentralisation ». Je lui ai demandé ce qu'il pensait des biorégions. Il est tout à fait d'accord, mais à son avis, il faudrait respecter déjà les régions administratives qui existent. Je pense qu'il y en a 12 ou 18 au Québec. Et on pourrait leur donner une vocation biologique. Alors, c'est à peu près ça qui est ça. Et puis, je suis rendu à vous parler d'un livre qui s'appelle « Gaza avant le 7 » de Guillaume Lavallée. C'est un Québécois. Je vous suggère absolument de lire ça. Et puis, j'ai aussi un autre livre à vous parler. Ça s'appelle « Cradle to Cradle ». Ça veut dire « du berceau au berceau ». Ce sont deux designers qui ont écrit ça. D'ailleurs, le livre est écrit en papier de pierre, imaginez-vous. Stone paper. Et puis, attendez un petit peu. T'sais, en anglais, c'est « si to si ».« Cradle to cradle », mais le « to », le « to », c'est un chiffre. C'est pour... devenir des professionnels dans la circularité. Il y a un cours qui se donne. Ça s'appelle Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Alors, ce monsieur-là, l'auteur, c'est William McDonough avec Michael Brungart dans le livre Cradle to Cradle. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut faire l'économie à l'aide du design pour qu'il n'y ait aucun déchet. C'est zéro déchet. Dès la production, dès le design des produits. Alors, maintenant, je vais vous lire une petite traduction en français de son nouveau livre qui s'appelle « Upcycle, au-delà du développement durable, l'éco-conception au service de l'abondance. L'OPSIC est la suite très attendue de Cradle to Cradle, le manifeste d'écologie sans doute le plus fondamental de notre époque. Aujourd'hui, convoquant les enseignements obtenus suite à 15 années de mise en pratique du concept C2C ou Cradle to Cradle auprès des sociétés, gouvernements et citoyens ordinaires, William McDonough et Michael Brungard lancent un nouvel appel évocateur visant à repenser la société humaine. C'est un panorama inspirant et révélateur de notre futur écologique qui déroule devant nos yeux. Au lieu de protéger la planète d'un impact humain, pourquoi ne pas intégrer l'amélioration de notre cadre environnemental dans la conception même de nos activités? Aussi pourrions-nous avoir une empreinte écologique bénéfique et durable et créer de l'abondance pour tous? Ce but est à notre portée. Beaucoup d'idées présentées inspireront les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs dans leur réflexion, de même, oserais-je dire, que la société citoyenne, sur la façon d'optimiser leurs procédures et conceptions. Cette lecture est également précieuse pour tout un chacun, puisqu'elle nous apprend à avoir la plus grande attente vis-à-vis de l'industrie, de la société et de nous-mêmes. Alors là, je vous parle de zéro déchet. Néanmoins, hier, j'ai vu 251 rue Laurier, là, à l'endroit qui recueille beaucoup d'organismes communautaires. J'ai vu l'ACEF qui produit un beau petit livre qui s'appelle « Réparer plus, jeter moins, bottin des ressources de Sherbrooke ». C'est assez incroyable. Ça a 27 pages de ressources pour recycler. Par exemple, à la page 20, on parle de « Réparer autrement ». La corderie est là. La jonction éducation, c'est « Repair café et atelier de démontage ». C'est sur la rue Marquette. On dit « C'est quoi un repair café ?» Et puis, par exemple aussi, concernant les meubles, Jacques Langlois, meubles, c'est un ébéniste spécialisé dans la définition des meubles, réparation à domicile ou atelier, pour redimensionner ou refaire un meuble. Alors, c'est 27 pages comme ça de ressources pour réparer plus et jeter moins. Donc, c'est recycler sans problème, d'accord? Alors, on va se donner une petite pause. Je vous reviens tantôt. Vous écoutez l'émission « À nous le futur ». Mon nom est Claude Saint-Georges, en remplacement de Biden à la télé. Alors, revoici Claude Saint-Georges pour l'émission « À nous le futur ». Il y a déjà eu une traduction vers 1984 que j'ai faite d'un manifeste international qui parlait de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications. Alors, nous sommes dans l'ère des communications, puis la transition en question n'est pas terminée. Il reste peut-être une décennie. Les transitions... avant ça, ça a été de l'homme nomade à l'humain agricole. Ça a pris plusieurs millénaires. Ensuite, de l'humain agricole à l'humain industriel, c'est quelques siècles. Et de l'ère industrielle à l'ère des communications, c'est quelques décennies, tout au plus. Alors, donc, ce manifeste international-là, je l'ai signé. Et puis, j'arrive à un détail, un instant... Je ne suis plus dans mes feuilles, alors que les plus jeunes ne sont plus dans leur portable. Donc, c'est ça, je l'ai signé, mais il y en a plusieurs autres qui l'ont signé. Entre autres, le physicien Fridtjof Capra. Fridtjof, F-R-I-T-J-O-F, Capra. Il a écrit, par exemple, le Tao de la physique. Alors, il dit, parce que là, il donne un cours hein, sur la physique là, à Berkeley. Ce n'est pas de la physique, c'est l'écologie. C'est Capra Course. Et puis, je vous lis un peu de sa pensée, en gros. Là. Au cours des 4 dernières décennies, une nouvelle conception de la vie est apparue à l'avant-garde de la science. Il s'agit d'une vision unifiée qui intègre les dimensions biologiques, cognitives, sociales et écologiques de la vie. Au cœur même de cette nouvelle compréhension de la vie, nous trouvons un changement profond de métaphore, de voir le monde comme une machine à la compréhension en tant que réseau. J'ai intégré les concepts que j'ai énoncés tout à l'heure, là, et les idées dans un cadre cohérent unique, une synthèse unique, que j'enseigne pour la première fois dans ce cours en ligne. J'appelle la nouvelle conception de la vie une vision des systèmes, parce qu'elle implique un nouveau type de pensée, la pensée en termes de relations, de modèles et de contexte. En science, cette façon de penser est connue sous le nom de pensée systémique ou pensée systématique. T'sais. Mais c'est pensée systémique qu'on connaît ici. Fait que la pensée systémique nous fait prendre conscience du fait que les grands problèmes de notre temps Par exemple, l'énergie, l'économie, le changement climatique, l'inégalité sont tous interconnectés et interdépendants. Alors, je n'en dis pas plus sur Fridtjof Capra. Je vous dis tout simplement que j'aurais adoré suivre ce cours-là aux États-Unis, mais je ne pouvais pas y aller. Et je ne suis pas parfaitement bilingue en ce moment. Fait que j'ai demandé à Fridtjof Capra si on pouvait, je ne sais pas, l'avoir d'une autre manière. Ce qu'il m'a répondu, c'est que l'équivalent de sa pensée en francophonie, je dis francophonie parce que je l'ai déjà interviewé ici dans les Laurentides, là. Il avait été gentil, il parle français, mais il ne peut pas donner son cours en français pour une gang d'Américains. Alors, il m'a dit que Edgar Morin, c'est un Français qui est l'équivalent de Fridtjof Capra en termes de pensée. Alors, c'est une pensée complexe. Et puis, j'ai lu quelques livres d'Edgar Morin. J'en ai parlé de un, déjà, ça s'appelle « La voix ». Et puis, il a écrit des livres sur la méthode. Je pense que c'est 7 livres au complet. Puis moi, j'en ai eu entre les mains qui s'appelle « L'aventure de la méthode ». C'est à la bibliothèque Eva Sénécal, vous pourrez aller voir ça. Et j'en ai un autre qui s'appelle « L'entrée dans l'ère écologique ». C'est 2020. Alors, ça aussi, je vous suggère d'aller lire ça, de Edgar Morin. Fait que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Je suis sûr que j'ai oublié quelques détails, là. Mais ça va revenir. Fait que là, je voudrais vous parler de l'alimentation. C'est la sécurité alimentaire. Il y a un problème de sécurité alimentaire dans le monde, comme on vient de voir avec Lester Brown. Mais il y en a un peu à Sherbrooke. Je crois qu'il y a 13 % de la population sherbrookoise qui ne mange pas à sa faim. Alors, il y a un manifeste des peuples sur le droit à une alimentation et une nutrition adéquate qui provient de Slow Food. Et Slow Food nous dit aussi que l'agroécologie est un chemin vers la résilience du système alimentaire. J'ai déjà proposé au conseil municipal que l'agroécologie soit adoptée dans notre territoire agricole sherbrookois, qui est de 37 %. Mais je n'ai pas eu de réponse très claire, mais en tout cas, c'est quelque chose à travailler, ça. Fait que nous avons un beau territoire agricole à Sherbrooke et on pourrait en profiter pour essayer la souveraineté alimentaire. Et un peu aussi l'efficacité énergétique, ce dont je parlerai plus après Noël. Fait que aide alimentaire, il y a Champ d'action, CHAMP d'action, et la Grande Table qui travaille à ça. Et puis, nous avons une émission spéciale. Vous savez, c'est tout interconnecté et c'est complexe, là. Un instant. J'ai ramassé une puce électronique par terre. Non, c'est pas ça, c'est un papier par terre. Sol vivant du Québec. Donc, vous pouvez aller voir Soil for Climate et Régénération internationale, donc SOIL 4 Climate. Ça parle des sols vivants. Alors, comme je vous disais, demain, nous sommes dans un radioton. Et puis, demain, il y aura une émission spéciale à 13 heures. C'est moi qui continue l'émission pour une journée de plus, là. C'est sur la sécurité alimentaire. Et il y aura, j'aurai le plaisir d'avoir une co-animatrice. C'est Joël Latour de Champ d'action et de la Grande Table qui animera et puis qui posera des questions à 5 personnes qui sont toutes impliquées dans la sécurité alimentaire à Sherbrooke. Donc, demain à 13 heures, on parle de ça. Et puis, maintenant, on passe à un peu de musique et je vous reviens pour les nouvelles. Claude Saint-Georges, de retour à l'émission À nous le futur. Pour vous dire que le journal Entrée libre s'en vient bientôt, la nouvelle parution. Et entre parenthèses, il va y avoir un article sur les premiers soins psychologiques. En effet, il existe un groupe à Sherbrooke là, qui donne de l'entraînement si vous voulez vous pratiquer à donner des premiers soins psychologiques. Il y a beaucoup de dépression ces temps-ci. Il y a une épidémie d'isolation. Les gens se sentent isolés. Les jeunes, mais aussi les aînés à qui ça arrive. Alors, voici des nouvelles, là. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je le redis, c'est très important. C'est une rapporteuse de l'ONU qui dénonce le premier génocide colonial diffusé en direct. Il s'agit de Francesca Albanese. Alors, vous pouvez vous voir dans Internet. Moi, je l'ai vu, là. Elle a fait un rapport. Ça s'appelle l'effacement colonial par le génocide. Elle dénonce le premier génocide colonial diffusé en direct à la télé. Donc, c'est la fin de cette nouvelle-là. Et suite à des élections qu'il y a eu, je crois, il y a une couple de jours, au sud d'ici, ouais, il y a un article dans Le Monde qui s'appelle « Aux États-Unis, le retour du fascisme et du backlash écologique ». Ce n'est pas Le Monde, c'est Reporter, OK? Le 6 novembre qui dit ça. Et puis, il y a eu au Baobab, et ce que je ne savais pas, c'est les artistes pour la paix qui me l'ont dit par la suite, c'est Québec solidaire qui sont allés faire une conférence au Baobab pour proposer un programme universel de repas gratuits dans les écoles pour les enfants qui ont faim. Parce que je pense que je vous avais dit aussi que j'ai vu un article, « Les enfants ont faim ». C'était dans Le Devoir. Donc, le coût, c'est 770 millions de dollars par année à l'horizon 2030. Le but, c'est de sortir la faim des écoles publiques québécoises. Donc, le contexte, c'est un enfant sur cinq au Québec vit de l'insécurité alimentaire à l'école. Le tiers des bénéficiaires des banques alimentaires sont des enfants. Les deux tiers des 14 à 13 ans mangent moins de 5 % de fruits et de légumes par jour. Les adultes qui peuvent, ils n'y pensent pas toujours non plus. C'est pas mal une question de santé d'arriver à là. Et 0,35 % du budget en éducation va à l'alimentation scolaire contre 6 % en Finlande. Donc, je pense que Québec solidaire s'inspire beaucoup de la Finlande. Fait que, donc, c'est bon que Québec solidaire fasse ça. Moi, j'ai demandé au Parti québécois s'ils avaient une politique semblable. Ils m'ont dit que oui, mais elle est moins évidente. Il y a moins de publicité. Concernant aussi les élections aux États-Unis, il y a quelques jours, là, dont on a entendu parler vaguement, il y a un article dans la presse qui dit que Donald Trump, élu président des États-Unis, hein? Ah oui, vous saviez ça, vous? Ah bon. C'est le climato-scepticisme qui est de nouveau au pouvoir. Actuellement, la Californie est en train de brûler. Et est-ce que M. Trump va dire que les changements climatiques n'existent pas? Je ne sais pas, non? Fait qu'on dit qu'il y a des inondations catastrophiques en Afrique de l'Ouest et du Centre qui touchent plus de 7 millions de personnes. Ça, c'est le bulletin des Nations Unies dont je vous parle quelquefois qui m'inspire. Et vous pouvez vous adhérer à ce bulletin-là facilement, c'est gratuit. Donc, on dit aussi qu'à Beni, B-E-N-I, il y a une station radio-télé locale qui émet à nouveau et contribue à la lutte contre la désinformation. C'est un article du 6 novembre dans le bulletin des Nations Unies. Puis, ce même bulletin-là dit que les citoyens veulent des mesures pour lutter contre la pollution plastique qui nous étouffe, affirme M. Guterres. Ce M. Guterres, qui est le chef de l'ONU, qui, comme vous l'avez peut-être entendu dire, désormais refusé d'entrer en Israël par un certain M. Netanyahou, je pense, qui a décidé de se revenger à l'infini en éliminant un peuple en Palestine, je crois. Alors, on dit aussi qu'à l'ONU, il y a une économie obsédée par la croissance qui crée une crise de santé mentale invisible pour les personnes en situation de pauvreté. Alors, tu sais, c'est pas drôle. Puis le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle le monde à agir face au moment le plus sombre du conflit à Gaza. Et il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA, cet organisme qui s'occupe de nourrir les affamés de la Palestine, Martel Guterres, après l'adoption de lois israéliennes interdisant l'agence. Alors, au lieu d'interdire à ces troupes de bombarder, d'affamer la Palestine, l'Israël, au lieu, interdit l'ONU de se présenter en Israël. Alors, il y a un film qui a eu lieu, ça s'appelait « Je ne haïrai point ». C'est un médecin palestinien qui a pratiqué la médecine en Israël. Et malheureusement, il y a un tank qui a bombardé sa maison, qui a tué deux de ses enfants. Alors, le titre du film, c'était « Je ne haïrai point ». C'est le docteur Izzeldine Abueloish. Et le livre existe à la bibliothèque. Alors, ça s'appelle « Je ne haïrai point ». Également, je voudrais vous dire qu'il y a une déclaration commune sur l'engagement de 163 millions de dollars des donateurs et confirmation de l'appui au Fonds cadre mondial pour la diversité biologique. Ça, c'est suite à la COP16 qui vient de terminer, là. On dit que le texte de la déclaration suivante a été publié par l'Allemagne et la province de Québec aussi pour leur annonce de nouvelles contributions, ainsi que par le Canada, le Japon, le Luxembourg et l'Espagne. Une contribution de 163 millions de dollars pour aider la biodiversité biologique. Donc, nous sommes heureux que l'annonce aujourd'hui comprenne une contribution de la province de Québec. Ça nous fait hausser la tête un peu de fierté. À propos du Fonds pour l'environnement mondial, on dit que ce fonds-là, FEM, est une famille multilatérale de fonds qui se consacre à la lutte contre la perte de biodiversité. Tout à l'heure, je vous ai parlé du réseau des éclaireurs. Je vous confirme que ça existe à Sherbrooke. Et ils donnent des formations pour faire des premiers soins psychologiques. Et Étienne Beaulieu, un écrivain de Sherbrookeois, fait le pari que l'Estrie peut devenir une terre littéraire au Québec. Tout est là, selon lui. Il ne resterait plus qu'à ficeler l'offre culturelle de la région. Je l'ai déjà interviewé l'année passée. Alors, allez lire ça dans la tribune. C'est « L'Estrie aurait tout pour devenir un bijou littéraire ». Également, comme nouvelle, on continue là-dedans, les nouvelles, c'est « Notre modèle est une machine destructrice de la planète », dit la presse à propos de la crise de la biodiversité. Alors, pour mieux protéger la biodiversité, il faut s'intéresser aux véritables raisons qui mènent à son déclin, dit cet article-là, de Éric Pierre Champagne. Il y a des changements nécessaires de Montréal à Cali. Bâtir des ponts pour opérer des changements transformateurs en biodiversité. On ne va pas résoudre les problèmes en ne faisant pas de changements, a précisé Lucas Alejandro Garibaldi. Selon Alain Branchot, il y a deux grandes catégories de causes indirectes. Un modèle économique basé sur une croissance infinie, alors que les ressources planétaires ne sont pas illimitées, et un système de valeurs dominant qui repose sur la possession d'objets. Alors ça, c'est important aussi. Puis, l'Action boréale. Vous savez que c'est le groupement fait par Richard Desjardins suite à son film « L'erreur boréale » pour protéger la forêt boréale. Eh bien, on vous suggère, si vous avez le goût, si vous avez de l'argent, d'être membre. Allez voir Action boréale, c'est 15$ par année pour faire ça. Bon, j'ai des... Tu sais, comme on le sait, là, c'est les Nations Unies qui nous disent que Gaza, l'offensive militaire israélienne, ne s'arrête pas. La situation ne fait qu'empirer. Et M. Guterres encore, qui parfois trouve quelques secondes pour penser à autre chose que Gaza, il dit que la COP 16 sur la biodiversité, il exhorte le monde à faire la paix avec la nature. Puis, une fois qu'il a dit ça, bien là, il déclare au président Poutine que l'invasion russe de l'Ukraine viole la charte de l'ONU. Ça, c'est encore le bulletin des Nations Unies qui est gratuit pour tout le monde, auquel vous pouvez vous abonner. Et bon, il y a 15 hauts responsables humanitaires qui appellent Israël à mettre fin à son attaque contre Gaza. C'est le 1er novembre que le bulletin des Nations Unies dit ça. Et puis, le bulletin des Nations Unies dit aussi que la capacité de l'UNRWA, comment cette capacité-là à aider la Palestine a-t-elle été affectée? Bon. Par exemple, avant la guerre, on estimait que plus d'un million de réfugiés palestiniens vivaient dans une pauvreté absolue, que les habitants de la bande de Gaza avaient du mal à faire face au blocus aérien depuis 15 ans. Et depuis la guerre, la capacité de l'UNRWA, une quelconque forme d'aide a été considérablement réduite. Et seulement 6 % de la quantité de fournitures commerciales humanitaires est autorisée à passer les frontières. Près de la moitié de la population ne dispose pas du minimum de 15 litres d'eau. Et pour le reste, je vous dis ça la semaine prochaine. Et concernant la biodiversité, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un accord historique sur les données génétiques, les Autochtones et personnes d'ascendance africaine. Le 4 novembre, le bulletin des Nations Unies nous dit que le plus grand sommet mondial sur la biodiversité, concernant la COP16, s'est achevé ce week-end en Colombie, avec la prise de plusieurs décisions historiques, dont les premiers accords sur les données génétiques de la nature et sur la reconnaissance des personnes d'ascendance africaine et des peuples autochtones en tant que responsables clés des efforts de conservation. Et puis, quelque chose dont j'ai déjà parlé aussi, mais j'aimerais ça voir un article dans le journal Entre Libres, peut-être que ça va arriver. Ça s'appelle le Shinrin-yoku, la voie de la forêt. C'est une manière d'aller en forêt pour se soigner, pour enlever du stress. Et le cardiologue François Reeves prescrit des promenades en forêt, selon la presse. Ça s'appelle aussi le bain de forêt. Ça aide à prévenir la dépression. Et c'est un bain de forêt thérapeutique anti-stress. Nous avons beaucoup de chance. Moi, je lève les yeux, là, puis je vois tout près de la bibliothèque une belle petite forêt chabroucoise où on peut aller. Fait que, au minimum 20 minutes en forêt, ça vous enlève beaucoup de stress. Parlant d'alimentation, demain, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une émission spéciale sur la sécurité alimentaire dans le cadre du Radioton pour aider Moisson Estrie, au profit de Moisson Estrie. Et puis, il va y avoir une co-animatrice qui va interviewer 5 personnes impliquées localement. Fait que je n'aurai pas le temps de dire ce que je vous dis présentement. Ce sont des ressources concernant l'alimentation, des ressources intellectuelles. Bon, mais vous savez que c'est là que l'article du Devoir, « Au Québec, trop d'enfants ont faim », l'entente s'apprête. Et puis, il y a justement ce que je vous ai dit au Baobab, là, le Québec solidaire qui veut aider les enfants. Il y a la déclaration de Slow Food sur la Journée mondiale de l'alimentation en 2024. On nous dit qu'il y a une crise silencieuse alimentaire chez les étudiants. Ça, c'est dans la presse. Le bilan fin de Moisson Montréal confirme qu'encore plus de gens cognent aux portes des banques alimentaires, dont de nombreux étudiants et sûrement étudiantes. Désolé pour ça. Il y a un plan de développement d'une communauté nourricière à Sherbrooke. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est PDCN. Et comme je disais encore, nous avons 37 % de territoire agricole à Sherbrooke. Pourquoi pas en profiter pour arriver à notre sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire ici? Et parfois, on peut aussi travailler sur la souveraineté énergétique en même temps qu'alimentaire. Il y a des fermes qui produisent de l'énergie et de la nourriture. Ça s'appelle Dream Farm. Si vous allez voir dans le site Internet de MAEWON-HOE. Fait que j'ai aussi en main un livre qui s'appelle Hoping, HOPING, Food for Everyone. C'est un... Bon, ça, tu sais, je vous parle souvent de... Je casse les oreilles presque avec Buckminster Fuller. Lui, il avait inventé un outil pour réfléchir, pour planifier. Ça s'appelle le World Game. En français, on peut dire que c'est le jeu planétaire. Alors, il a eu un World Game où les citoyens ont participé. Fait que ça, c'est le contraire de War Game. Hein? Tu sais, War Games, les militaires essaient des scénarios pour tuer le plus de monde possible. Ça ne leur dérange pas les coups, là. Le plus vite possible. Mais World Games, c'est comment aller le plus vite possible pour donner une meilleure qualité de vie au monde entier, au moindre coût en ressources et en écologie. Puis, bon, tu vois. Fait que vous avez Hoping Food for Everyone. Et puis, le contraire, c'est Vandana Shiva, cette physicienne et agricultrice, qui a écrit le livre pour nous renseigner, là, pas pour nous faire peur. Le terrorisme alimentaire. Comment les multinationales affament le monde. Et j'ai un excellent livre dont j'ai déjà parlé à l'émission, mais je le dis parce que demain, il y a une émission sur la sécurité alimentaire. C'est « Veut-on nourrir le monde? Point d'interrogation. Franchir l'Everest alimentaire en 2050. » Et puis le livre « Réhabiter le monde, ça existe. » Je vous en ai parlé déjà. Et le livre « Designing a world that works for all. » Solutions and Strategies for Meeting the World Needs. C'est Médard Gable du Global Solutions Lab qui rend ça disponible. Tu sais, je le dis, puis j'en dis beaucoup, mais je sais que vous, vos générations de l'information, vous pouvez, en réécoutant le balado qui sera fait demain, vous pouvez accéder à tout ça. Fait que j'ai un autre document qui s'appelle « L'humanité peut être alimentée correctement ». ça c'est drôle en même temps, là. C'est Marc Dufumier, qui est agronome expert auprès des Nations Unies, qui dit ça. Il dit que il existe des solutions à la faim alimentaire, tu sais, à la faim mondiale, là, qui permettent d'ores et déjà d'accroître les rendements à l'hectare dans des pays pauvres, sans coût majeur en énergie fossile, ni recours intensif aux engrais de synthèse et aux produits de pesticides. Elles ont recours à des variétés de plantes rustiques. Alors, lisez Marc Dufumier, un agronome auprès des Nations Unies. Et puis, j'ai pris le livre qui s'appelle « La puissance des liens » de Christophe André, qui est un psychiatre, Abdenno Bidar, un philosophe, Boris Cyrulnik, que vous connaissez, et Mathieu Ricard, un biologiste moine en même temps. Ça s'appelle « La puissance des liens ». Comment les liens aux autres, au monde et à soi nous rendent plus forts? J'ai pris le plaisir de vous parler de ce livre-là parce que ça ne concerne pas l'agriculture, mais ça parle de l'importance de créer des liens dans notre époque d'isolement, de crise, d'isolation, finalement, là, avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Ça me fait plaisir de dire avec soi-même parce qu'on n'en parle vraiment pas souvent, d'accroître les liens avec soi. Ça peut être les rêves, ça peut être la méditation, ça peut être le souci, le goût de prendre bien soin de soi pour sa santé et son bonheur total, inclus psychologique et philosophique. Alors, ici Claude Saint-Jean pour l'émission « Nous, le futur ». Je vous reviens après cette publicité, cette musique. Rebonjour. Je voudrais vous dire que cet auteur-là, Guillaume Lavallée, le Québécois, qui a écrit « Gaza avant le 7 », sera à la librairie Appalaches. Je ne sais pas quand, mais c'est bientôt. Là. Demandez-leur à la librairie des Appalaches ou Appalaches. Quand est-ce que Guillaume Lavallée vient parler et présenter son livre? Je vous lis l'endo. Le matin du 7 octobre 2023, Gaza a débordé. Après 16 ans de blocus israélien, le Hamas a taillé une brèche dans la muraille qui la coupait du monde pour attaquer Israël. Dans les heures qui ont suivi, l'armée israélienne s'est lancée à l'assaut de Gaza pour y anéantir le Hamas. Depuis, les morts se comptent en dizaines de milliers et demain, il ne restera plus rien de Gaza comme on l'a connu. Peut-être nostalgique de ce qui était intenable, c'est-à-dire peut-on être, OK? Guillaume Lavallée nous amène avec lui au cœur de Gaza, ce lieu où régnait une vie en sursis, un quotidien brinque-ballant, prodigieusement humain, mais toujours chevillé à un conflit devenu la mère nourricière de ses enfants. C'est à sa mère, à lui, dont la mémoire sombre irrémédiablement, qu'il raconte en même temps qu'à nous ce qu'était Gaza, sur laquelle la terre, le ciel, la mer s'étaient refermés, évoque le feu qui s'abat sur elle, mais aussi celui, têtu, de l'espoir qui, hier encore, refusait de mourir. Alors, c'était Guillaume Lavallée, l'endo du livre « Gaza avant le 7 ». Cet auteur sera à la librairie Appalaches, bientôt. Demandez-le quand. Alors, ici Claude Saint-Jean, à nous le futur. Et je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie, et puis de vous relier à vous-même et aux autres et à la nature. À bientôt, à demain en ce qui me concerne, mais aussi à jeudi prochain.